France Musique. Les trésors de France Musique, Françoise Monteil.
Bienvenue à tous. Je vous invite aujourd'hui à écouter la seconde partie de l'entretien que l'historienne de l'art Françoise Cachin avait accordé à France Musique en 1991 dans l'émission d'Olivier Bernager « La clé des sentiments ». Françoise Cachin fut la première femme à être nommée à la direction des musées de France en 1994, après avoir dirigé pendant 8 ans le musée d'Orsay, un musée qu'elle avait aussi contribué à faire naître dans l'ancienne gare d'Orsay à Paris en 1986. Dans la première partie de cette archive, enregistrée en 1991, que vous avez pu écouter hier, Françoise Cachin s'avouait peu mélomane et déclarait ne pas faire spontanément de correspondance entre musique et peinture. Aujourd'hui, en commentant la programmation musicale qu'elle avait choisie, l'historienne de l'art esquisse des associations, comme entre le compositeur Emmanuel Chabrier et le peintre Édouard Manet, et aussi entre Schubert et le peintre Georges Seurat. Manet et Seurat, deux des peintres préférés de Françoise Cachin.
Thank you. Andantino de la sonate Deutsch 959 de Schubert, jouée par Mauricio Pollini. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir dans ce mouvement ?
D'abord, c'est le cafard absolu, c'est le cafard merveilleux, c'est le cafard sublimé, c'est des moments de mélancolie qu'on a tous dans la vie, moitié du temps, mais sublimé, qui vous rend heureux, là. À ce point-là, ça vous rend heureux. Quand on a le cafard, alors c'est pas comme le matin, mais là, vraiment, quand on est triste, on entend ça. C'est une façon de sublimer le chagrin ou la tristesse qu'on peut avoir. C'est d'une beauté incroyable. Je peux pas expliquer. Vous pouvez expliquer ça? C'est la perfection, c'est ça le génie. C'est arriver à dire des choses avec une perfection et être le seul à le dire comme ça.
Mais dans le fond, ça m'étonne pas tellement que vous ayez souhaité faire se succéder Françoise Cachin, Wagner, le prélude de l'Or du Rhin, et c'est Andantino de cette sonate de Schubert. Oui. Parce que dans le fond, c'est deux musiques qui semblent s'adresser au même niveau, à un même niveau de nous-mêmes. C'est-à-dire, ça revient, c'est des musiques qui reviennent tout le temps sur elles-mêmes.
Peut-être.
Qui ressassent.
Peut-être. C'est un peu ça la musique, quand on
l'aime. Oui, oui.
Non enfin,
oui.
C'est le retour, c'est d'ailleurs, plus on entend quelque chose, plus on l'aime, c'est une chose tout à fait... Quand on aime quelque chose, plus on l'entend, plus on l'aime. C'est...
Mais je dirais ça aussi de la peinture, pour revenir sur un domaine qui...
Alors curieusement, vous savez, j'étais en train de... En réécoutant ce morceau admirable, j'étais en train de me dire, mais au fond, si je devais illustrer ça, qu'est-ce que je mettrais ? Et curieusement, ça n'a rien à voir, c'est pas la même époque, ça on est en plein romantisme. Eh bien, je pense à Sera. Je pense à cette espèce d'ordre et de mélancolie en même temps. Et c'est cette espèce de façon de camoufler un cafard profond par un ordre parfait. Alors, peut-être que j'y pense parce que je me suis intéressée récemment à Sera. Mmh. Mais c'est le genre d'artiste qui me paraît un peu de la même sensibilité.
Mais vous pensez au Sera des dessins
je pense ou même
plutôt
à la peinture,
Sera des peintres
Je pense aux deux, je pense aux deux. Je pense à cette espèce de très grande mélancolie qui est surmontée par un besoin de perfection. Et au fond, dans Schubert, je ressens ça aussi, avec un sentiment qui est peut-être plus exprimé. Mais il y a même cette même tension entre le chagrin de vivre, disons, sans être mélodramatique, d'espèce de tristesse, et puis de volonté de perfection absolue. Et là, on le sent dans Schubert, cette perfection absolue. C'est faut dire que c'est merveilleusement joué, là aussi.
Oui, une fois encore, l'interprète est pour quelque chose. Oui. Sera et Schubert, j'avoue que...
C'est peut-être absurde, mais je pense que peut-être que dans les tempéraments profond ces deux artistes, on peut trouver des choses communes. Enfin, on ne peut pas s'étendre, mais ce n'est pas totalement aberrant. Plus j'y pense en vous en parlant, ce n'est pas totalement aberrant.
Ouais. Je ne sais pas si on peut faire pousser un peu plus loin la comparaison sur vos pas en se disant que Schubert, souvent dans ses sonates, avait tendance à répéter.
Peut-être, il y a un côté un peu maniaque, d'une certaine façon.
Et Sera,
cette espèce de maniaquerie, de besoin de perfection, de maniaquerie par l'ordre. Là aussi, bon, il y a l'ordre du point divisé ou l'ordre de ce retour perpétuel. C'est possible. Je sais pas, il faudrait regarder de plus près. En tout cas, j'y ai pensé. C'est peut-être ça.
Voilà.
J'y ai pensé.
Oui. La lettre amoureuse, la lettera amorosa de Monteverdi, c'est
ah
quoi
ben, on retourne à mon cher Monteverdi. Alors, d'abord, c'est pour vous prouver, puisque je vous ai dit tout à l'heure que je n'aimais pas les voix de femmes. C'est assez faux, je n'aime pas les voix de femmes très haut placées. Et je trouve que Cathy Berberian a une voix admirable. Moi, qui me touche profondément, je ne pourrais pas du tout vous expliquer pourquoi. Et je trouve cette lettera amorosa de Monteverdi une des choses les plus passionnées, les plus extraordinaires qu'on ait jamais écrite en musique, et même peut-être écrite en le texte est assez étonnant, est un peu précieux, est un peu de l'époque, mais on y sent une passion brûlante. Enfin, c'est tout à fait extraordinaire que la musique et que la voix de Cathy Berberian font très bien passer.
Say long, questa carta in cui sotto forma d'inchiostro il passi d'amor sparano l'anima mia, ansia d'un par vedrete come in sua propria sfera nelle vostre bellezze il fuoco mio. Non è già parte in voi che con forza invisibile d'amore tutta tragga. Altro già non sono io che di vostra beltà creda e profilo. A voi mi volgo chiome, cori miei acci d'oro, scampar sicuro se come lacci l'anima legaste come oro la compraste voi pur voi dunque siete della mia libertà catena e prezzo sta preziosi, bionde fila divine, con voi l'eterna parca sovra il fuso fatal, mia vita torce, voi capelli d'oro, voi pur siete di lei, che tutto fuoco mio. Ma se faville sete, onda vien che d'ogni ora contro l'uso del fuoco in giù scendete, che a voi per salir scender conviene. Aspirate la sfera degli ardori, o paradiso e posta in quel bel diviso. Cara mia selva d'oro, ricchissimi capelli, in voi quel labirinto amor intesse onde uscir non saprà l'anima mia tronchi pur morti rami del prezioso bosco e della fragile carne scuoto pur lo mio spirito che fra fronde si belle ancor reciso rimarrò prigioniero fatto gelida polvere ed ombra ignuda. Dolcissimi legami, belle mie piogge d'oro, allor sciolte cadete da quelle ricche nubi onde raccolte siete e cadendo formate preziose precelle onde con onde d'or bagnando andate scogli di late e rivi dall'alabastro muore subitamente
Cathy Berberian, la lettre amoureuse, la lettera amorosa de Claudio Monteverdi. J'ai été, la fin, comme elle a su prononcer le dernier mot et nous laisser dans l'attente d'une réponse finalement, réponse à cette lettre.
C'est étonnant, c'est une voix qui parle autant qu'elle chante, c'est une chose qui me touche énormément, qui parle et alors qui fait passer évidemment une émotion, une attente extraordinaire. C'est normalement d'ailleurs un homme qui aurait dû la chanter, puisque c'est adressé à une femme. Il s'agit de Tresses blondes. Il y a tout un texte qui est à la fois savant, un peu artificiel et très fort, très brûlant. Je trouve étonnant la façon dont elle parle, dont elle dit la musique.
Son naturel aussi.
Son naturel, sa justesse, la vérité de cette.
Ouais. Et une manière peut-être de ne pas se prendre du tout au sérieux.
Peut-être.
Et donc de rendre cette musique plus proche de nous.
Sans doute. Est-ce que Monteverdi l'a voulu comme cela? On ne sait pas. En tout cas, c'est extraordinairement près de nous comme façon de. Et la musique qui s'efface derrière la voix, qui ponctue simplement, qui la pousse un peu, qui l'encourage. Juste doucement, enfin, c'est merveilleux, c'est absolument merveilleux.
Et vous nous disiez tout à l'heure, Françoise Cachin, votre inimitié pour les voix féminines aiguës, n'est-ce pas finalement à cause du répertoire? Parce que le répertoire des voix féminines aiguës est souvent un répertoire ou bien léger, ou bien un répertoire plein de vélocité, plein de fioritures et d'artifices. Est-ce que vous n'aimez pas, j'ai l'impression, c'est ce qui est artificiel?
Probablement. Et puis peut-être aussi que dans les rôles de soprane, il y a toujours une sorte d'agressivité. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les sopranes, quand elles chantent très fort et très haut, c'est en général pas pour dire des choses très tendres. Il y a une violence, il y a une agressivité pointue qui me déplaît profondément. Là aussi, c'est peut-être des souvenirs d'enfance.
Les gens... puis c'est peut-être difficile. Il faudrait voir cas par cas. Évidemment.
Il faudrait voir cas par cas. Mais très souvent, j'y sens plutôt une agressivité qu'une complicité.
C'est pas une question de sonorité, c'est aussi une question d'image, quoi, d'image.
Peut-être, de sonorité aussi, certainement.
Oui. Mais les instruments aigus, les flûtes, tout ça, ça vous gêne pas?
Ça peut me gêner. Ça peut me gêner. Je dois être plus près du règne animal. J'ai un chat comme ça qui s'en va se cacher sous les meubles quand les sons sont trop aigus.
En tout cas, ce naturel, on va le retrouver dans la chanson que vous voulez entendre maintenant.
Oui, j'aimerais. Ça me ferait très plaisir de faire entendre les frères Jacques, que je trouve des musiciens merveilleux,
des
diseurs,
des
diseurs merveilleux qui ne se prennent pas au sérieux. Et je trouve qu'après toute cette tension et cette musique d'émotion très élevée, je trouve agréable et d'entendre s'amuser les frères Jacques.
Quand le soleil s'est levé là-bas derrière Pantin, ça n'a été qu'un cri dans le petit matin. Il fait beau. Les oiseaux de Paris filent au champ ventre à ciel. Aux quatre coins de la ville ont porté la nouvelle. Il fait beau. De la muette à Pigalle, on se l'est répété, une bonne nouvelle, ça vaut le coup d'en parler. Il fait beau, il fait beau.
Et tout Paris bientôt fredonne obstinément ce refrain de trois mots monotone et charmant.
Il fait beau, tout le monde est content. Puis le soleil joyeux montant un peu plus haut, en fin de matinée, il y a quelque chose de nouveau. Il fait chaud, ça s'aggrave d'heure en heure, bientôt nous étouffons.
On a un petit peu d'air quand il passe un avion.
Il fait chaud, les femmes sont adorables, comment peuvent-elles ranger dans si peu de tissus, tant de choses à toucher. Il fait chaud, il fait chaud.
Partout dans les bistrots, on prépare les grands verres, on a beau être content, on se fait monter de la bière.
Il fait chaud, faut jamais s'en faire. Délaissant avant l'heure son torride bureau, l'ami Gaston chez lui est rentré bien trop tôt. Il fait chaud, il a trouvé sa femme seule avec un monsieur.
À part le drap du dessus, il n'avait rien sur eux.
Il fait chaud,
Gaston restait sans voix.
Sa femme ne disait rien.
Alors l'autre type a dit,
il y a comme ça qu'on est bien.
Il fait chaud, il fait chaud.
Vous croyez, dit Gaston,
je peux vous l'affirmer.
Gaston s'est dévêtu
et tout s'est arrangé. Il fait chaud, on peut pas se fâcher. Puis enfin c'est le soir, assis devant leur maison, les concierges déclarent avec satisfaction: il fait bon. Dans le ciel assombri, les hirondelles font en poussant des petits cris une partie de saute moucheron. Il fait bon. Puis le soleil pressé disparaît vers Saint-Cloud. Là, le tour du monde à faire, faut qu'il en mette un coup. Il fait doux, il fait doux.
Il a pas de temps à perdre, s'il veut être revenu demain, on compte sur lui de bonne heure là-bas derrière Pantin.
Il fera beau,
il fera beau,
il fera beau, ça nous plaira bien.
Je sais, Françoise Cachin, pourquoi vous avez choisi cette chanson.
D'abord, elle m'amuse énormément. Je la trouve délicieuse. J'y vois une espèce de vieil esprit parisien, toujours. Je vois les films de René Clair, je vois le côté à la fois gaillard et gentil, proprement français. Je trouve ça exquis. C'est merveilleux. C'est merveilleux, les chansons comme ça. Ils en ont fait plein, d'ailleurs, comme ça.
Mais celle-là est particulièrement
réussie. Elle est délicieuse. C'est Guy Béard qui a écrit le texte.
Ouais. Et puis c'est une série de tableaux, de tableautins.
C'est vrai, le soleil, c'est le soleil levant.
Le soleil levant, et qui va surprendre chacun par la fenêtre.
C'est plein d'humour, c'est merveilleux.
Ouais,
Et là aussi, voilà des chanteurs qui disent merveilleusement, qui parlent, et qui s'amusent, on sent, ils sourient en chantant. Enfin, on a l'impression que leur moustache se soulève en chantant, c'est très très amusant.
Oui, Hélène Delaveau, tiens, pourquoi vous voulez entendre Hélène Delaveau ?
Eh bien, Hélène Delaveau, d'abord, j'aime beaucoup sa voix, je l'aime beaucoup, et puis elle va venir au Musée d'Orsay en avril faire tout un récital, j'en suis absolument ravie, à propos de Lautrec. Vous savez qu'en février, nous ouvrons une grande exposition de Lautrec, alors on va faire toute une série d'événements autour de Lautrec. Et j'ai trouvé que ce serait, enfin, nous avons trouvé au musée que ce serait merveilleux d'entendre Hélène Delaveau chanter des chansons de l'époque de Lautrec, des chansons de Bruant, des chansons de toute cette époque-là, des chansons d'Yvette Guilbert. Et c'est tout à fait étonnant. Elle va être accompagnée au piano par Irène Aïtoff. Irène Aïtoff, qui a été la dernière pianiste d'Yvette Guilbert. C'est, donc le fil n'est pas rompu, c'est étonnant. Et son disque va sortir, je crois, incessamment. Et je crois que ça ferait très plaisir à tout le monde de l'entendre en primeur.
Les trésors de France Musique.
Madame Arthur est une femme qui fait parler de longtemps. Sans journaux, sans rien, sans réclame, elle eut une foule d'amants. Chacun voulait être aimé d'elle, chacun la courtisait. Pourquoi ? C'est que sans être vraiment belle, elle avait un je ne sais quoi. Madame Arthur est une femme qui fit parler d'elle longtemps, sans journaux, sans rien, sans réclame. Elle eut une foule d'amants. Madame Arthur est une femme qui fit parler d'elle longtemps. Sa taille était fort ordinaire, ses yeux petits mais séduisants, son nez retroussé, sa voix claire, ses pieds cambrés et frétillants. Bref, en regardant sa figure, rien ne vous donnait de l'émoi. Mais par derrière sa tournure promettait un je ne sais quoi. Madame Arthur est une femme qui fit parler de longtemps, sans journaux, sans rien, sans réclame. Elle eut une foule d'amants. Madame Arthur est une femme qui fit parler d'elle longtemps. Ses amants lui restaient fidèles. C'est elle qui les renvoya. Elle aimait les ardeurs nouvelles. Un vieil amour lui déplaisait. Et chacun, le chagrin dans l'âme, de son cœur n'ayant plus d'emploi, disait, hélas, une autre femme n'aura pas son je ne sais quoi. Madame Arthur, c'est une femme qui fit parler d'elle longtemps, sans journaux, sans rien, sans réclame. Elle eut une foule d'amants. Madame Arthur est une femme qui fit parler d'elle longtemps. Il fallait la voir à la danse, avec son charme sans égal, par ses mouvements, sa cadence. Elle était la reine du bal. Le cavalier lui faisant face devenait tout rouge d'émoi, qu'en levant sa jupe avec grâce, il voyait son je ne sais quoi. Madame Arthur, c'est une femme qui fit parler d'elle longtemps, sans journaux, sans rien, sans réclame. Elle eut une foule d'amants. Madame Arthur, c'est une femme qui fit parler d'elle longtemps. De quoi donc vivait cette dame, menant si grand train de maison, courant de l'opéra au drame, et soupant chaque soir, dit-on. Elle voyait pour l'ordinaire venir son terme sans effroi, car alors son propriétaire admirait son je ne sais quoi. Madame Arthur est une femme qui fit parler d'elle longtemps, sans journaux, sans rien, sans réclame. Elle eut une foule d'amants. Madame Arthur est une femme qui fit parler d'elle longtemps.
Hélène Delavaux avec Irène Aytoff, Madame Arthur.
Madame Arthur, c'est célèbre. On ne présente plus Madame Arthur. Je crois que c'est de Xanroff et c'était chanté au Chat Noir. Et évidemment, ça devait amuser toute l'époque.
En tout cas, le disque paraîtra, parce que ça c'est une avant-première, le disque paraîtra en février 92, collection Musique France.
Et elle le chante merveilleusement bien.
Ah oui.
Elle le raconte, elle le chante, elle s'amuse. Là aussi, on sent qu'elle s'amuse en chantant, c'est merveilleux.
Mmh. Alors on va passer à Chabrier, à Espagna, de Chabrier, version pour piano. Quelle est cette idée?
Eh bien, j'ai beaucoup de... Alors j'ai une grande tendresse pour Chabrier. D'abord j'aime bien ça, j'aime beaucoup sa musique. Ça n'est pas peut-être ce qui me fait le plus battre le cœur, mais c'est lié à des choses que j'aime énormément, en particulier à Manet. C'était un grand ami de Manet. Espagna d'abord me fait penser à, évidemment au premier Manet, à tout ce goût espagnol de la peinture de Manet en particulier. Et puis, j'aime beaucoup quand un musicien s'intéresse énormément à la littérature ou à la peinture, ou vice-versa. Je trouve ça absolument passionnant. Et Chabrier, en dehors d'être un très grand musicien, un inventeur extraordinaire, Chabrier était un collectionneur étonnant. Vous savez que Chabrier a été du vivant de Manet, et même dans les 10 ans qui ont suivi la mort de Manet, le plus grand collectionneur de Manet. Il a eu des tableaux qui sont dans tous les musées du monde maintenant. Et puis, le morceau que j'ai choisi me paraît tout à fait superbe.
Et il est joué. Alors, vous n'avez pas voulu la version d'orchestre, hein. Vous avez préféré la transcription pour piano. Pourquoi pas? C'est pas plus intime, parce que ça...
J'ai écouté les deux versions, je ne peux pas vous expliquer, j'ai été beaucoup plus sensible à la version pour piano. En plus, je pense que je l'imagine plus dans l'époque... jouer au piano. Vous savez que Madame Manet jouait du piano, et j'imagine un peu tout ce milieu où on se rencontrait, où Madame Manet jouait du piano pour Chabrier, jouait du Chabrier pour son mari, comme elle l'avait fait pour Baudelaire quand il était en train de mourir. Enfin, il y a tout un ensemble de choses où la musique, la peinture, les amitiés entre artistes à cette époque-là me plaisent beaucoup et sont évoquées très précisément par cet Espagnat de Chabrier.
Thank you.
Espagna de Chabrier, joué par le duo Corps-Exergent. Beaucoup d'esprit,
alors voilà,
beaucoup de sentiments, point d'interrogation.
Il y a surtout de l'esprit, oui, surtout évidemment, de l'esprit. Il y a surtout de l'esprit. Là, c'est pas les grands sentiments qui m'intéressent. Ce que j'aime, c'est au fond l'humour qu'il y a derrière tout ça. C'est une Espagne, un peu montmartroise, hein. C'est une Espagne à Paris. Et c'est le côté cavalcadant, joyeux, gai, l'esprit parisien. Enfin,
Il nous manque la coupe de champagne. Il nous manque la coupe.
Et je peux pas m'empêcher de penser à une phrase qui m'a tellement fait rire quand je l'ai lue, de Willy, qui disait d'Espagna qu'il était parti à l'assaut du Valhalla et qu'il s'était arrêté au Moulin Rouge. C'est merveilleux. Et on voit très bien la modernité tout de même extraordinaire qui lui vient évidemment de Wagner, comme tous les musiciens de cette époque. Mais c'est un peu méchant. Il s'est pas arrêté au Moulin Rouge. C'est pas vrai. Ça va beaucoup plus loin. Mais je vois très bien ce que Willy a voulu dire. Et c'est ça qui m'amuse là-dedans. C'est qui me plaît, qui m'amuse. C'est que je vois les plaisanteries qu'il y avait derrière tout ça.
Ces rencontres entre musiciens que vous évoquiez aussi tout à l'heure, c'est entre Manet, entre...
Bien sûr, ouais. Bien sûr.
C'est une vie qui manque aujourd'hui, finalement. Elle existe toujours ?
Je crois que... Je ne connais pas énormément d'artistes et de musiciens contemporains, mais j'ai l'impression que, d'abord, les gens se prennent un peu plus au sérieux, qu'il y avait une espèce de légèreté, de façon de vivre légère, et je pense qu'on faisait, on inventait, on faisait, on créait de la modernité sans en faire toute une aria. Enfin, on le faisait spontanément. Enfin, je pense à Manet, toujours je pense à mon cher Manet. Il n'y avait pas de stratégie dans tout ça. Il y avait une force, il y avait une vitalité, il y avait une invention, il y avait une drôlerie qui manque quelquefois beaucoup à certains créateurs contemporains. Mais ça, c'est, on n'y peut rien. Et que je sens là-dedans, qui transparaît chez un homme comme Chabrier ou comme Satie, dont on va parler tout à l'heure.
Oui, oui. Alors justement, Satie aurait pu faire partie d'un de ces salons amusés, un de ces salons un peu bohèmes amusés de Montmartre de cette période.
Il a traversé tous les mouvements... De la mode intellectuelle en étant à la voir. Je connais pas très bien Satie, mais je l'imagine comme une espèce de Jarry de la musique. Enfin, c'est à la fois d'invention tout à fait réelle, tout à fait forte, et de drôlerie qui est peut-être plus d'ailleurs dans les titres que dans la musique.
Mais le personnage lui-même est pathétique
avec ce
costume qui
finit de façon pathétique, mais au fond c'est l'image de la bohème, une espèce de bohème qui n'existe plus là non plus, qui effectivement je crois qu'il est mort dans la misère. Je pense que comme beaucoup de poètes, comme Verlaine, il a une fin misérable, alcoolique, etc. Mais derrière tout cela, il y a une force, une légèreté en même temps étonnante, une invention. Là aussi, je pense au début de l'art moderne, on peut pas ne pas y penser.
Thank you.
C'est la première des trois gnosiennes de Satie, jouée par Aldo Ciccolini. On aime ce piano-là, quand même. Vigoureux.
J'adore ça. Et ce que j'aime énormément, c'est cette espèce de sécheresse sous l'émotion, ou l'inverse, enfin, si vous voulez, l'émotion sous la sécheresse. Ce mélange, ce côté un peu grêle, et en même temps tendu, ému, enfin, je trouve ça parfait, parfaitement joué.
Qu'est-ce que vous pensez de cette appellation de sa propre musique, d'Eric Satie, lorsqu'il disait « c'est de la musique d'ameublement ». C'est vrai, hein ?
La musique d'ameublement.
C'est pour être là, dans l'atmosphère du lieu. On pourrait écouter cette gnosienne de Satie, titre mystérieux d'ailleurs, en boucle, comme ça, pendant des heures. Elle nous parlerait encore une
fois.
Enfin,
ameublement, alors, au sens fort, enfin, comme Matisse disait, je voudrais qu'on regarde ma peinture comme on s'assoit dans un bon fauteuil.
Ben, je crois que c'est tout à fait ça. Ce qu'il voulait dire, notre Satie.
Comme on s'assoit dans un bon fauteuil, et c'est merveilleux d'ailleurs de dire ça. C'est à la fois très, très fier et très, très modeste et très fier. Et si Satie le dit dans ce sens-là, je veux
je
bien.
Je crois, je le sens comme bien. Ça en tout cas. Bon, dernière étape, Françoise Cachin, avec le concert de Chausson. Là, on reste dans la même période. Qui est définitivement votre période de prédilection ?
Je trouve que Chausson, en tout cas, représente justement cette espèce de relation intime entre tous les arts à la fin du siècle. Vous savez qu'il était très ami de tous les peintres que personnellement j'aime énormément, des peintres nabis, il était dans ce milieu de la Revue Blanche, là aussi où régnait l'esprit. Il était surtout ami de Maurice Denis, d'ailleurs. C'est un concert là que j'aime énormément et qui fait penser, alors je crois qu'on pourrait dire beaucoup de choses sur Chausson. On a dit que c'était le Mallarmé de la musique, on pourrait dire c'est le Villard de la musique. C'est une musique intimiste, douce, en même temps très, très juste, tout à fait merveilleuse, extraordinairement civilisée. C'est une musique d'un haut degré de civilisation. Alors, il est mort très jeune, par accident, je crois, je ne connais pas très bien les détails, mais c'est sans doute un des musiciens qui aurait énormément compté au début du XXe siècle pour la musique moderne.
Thank you.
C'était le deuxième mouvement du concert de Chausson en Ré majeur opus 21, qui était joué par Jean-Philippe Collard, Augustin Dumay et le quatuor Muir. Voilà, c'était cette œuvre qui est à la fois qui exprime une certaine nostalgie.
Oui, il y a une mélancolie, il y a quelque chose de très exquis, de très, très parfait. Je m'amusais en entendant ces violoncelles à cette célèbre enveloppe que Mallarmé lui avait envoyée. Vous savez que Mallarmé envoyait des enveloppes invraisemblables. Je ne sais pas comment les facteurs de l'époque arrivaient, mais ça arrivait. Et il avait envoyé à Chausson une lettre dans l'enveloppe suivante. « Arrête-toi, porteur au son gémis par les violoncelles. C'est chez M. Ernest Chausson, au 22 boulevard de Courcelles.
» Rendons grâce au facteur.
Oui. Et là, je crois qu'on retrouve quelque chose que j'aime beaucoup, qui est justement un dosage savant entre l'émotion, la retenue, l'esprit, l'humour aussi, la gentillesse, là, quelque chose de très, très charmant.
Surtout la retenue.
La pudeur. Oui. Oui.
Bien, nous allons devoir vous quitter, François Cachin. Alors, je sais, on a échappé certainement à des tas de musique. Oui. En particulier la mort de Boris, que vous vouliez entendre.
Ah, je voulais terminer sur cette voix extraordinaire de la mort de Boris, cette voix masculine, tragique et merveilleuse.
Oui,
Tant pis.
Et puis, je vais devoir vous poser la rituelle question du titre de votre émission, de votre clé des sentiments. Alors,
c'est, je dirais des sentiments, mais pas trop de clés.
C'était la seconde partie de l'émission d'Olivier Bernager, La clé des sentiments. Il recevait à son micro l'historienne de l'art Françoise Cachin en 1991. Françoise Cachin était à cette époque la directrice du musée d'Orsay. Toutes nos archives sont disponibles en podcast sur le site radiofrance.fr et via l'appli Radio France. Merci à Béatrice Trichet pour la réalisation ainsi qu'aux documentalistes de l'INA pour leur collaboration.
À réécouter sur francemusique.fr.